Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Avec ma femme d'aujourd'hui, il s'agit avant tout de prise de conscience. Il s'agit avant tout de prendre soin de soi et il s'agit avant tout de se recentrer sur ce qu'on aime le plus et sur ce qui nous équilibre le plus. On y va pour les détails.
Mehdi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Raoula Aboulhassan, bonjour.
Bonjour Yasmine.
Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va Raoula?
Ça va très bien et vous?
Très bien, très heureuse de vous avoir. Une artiste justement, une jeune femme d'aujourd'hui, avec des centres d'intérêt, on va dire, très nobles, puisque tout ce qui est nature, tout ce qui est protection de l'environnement, ça vous parle beaucoup. Et puis en même temps, vous êtes une fervente praticienne de danse.
Exactement.
C'est bien ça.
C'est ça.
Alors aujourd'hui, est-ce que, Raoula, vous arrivez à vivre de votre passion? Est-ce qu'on peut vivre de danse au Maroc?
Alors, pour être honnête, c'est très compliqué de nos jours pour une artiste ou enfin, en général un praticien de la danse d'en vivre, à moins de vraiment peut-être avoir sa propre salle de danse ou même faire des shows constamment. Du coup, obligé de trouver quelque chose à côté pour pouvoir au moins subvenir aux besoins les plus importants. Mais j'essaie vraiment de me battre et de montrer qu'il y a moyen, que si on veut, on peut. Mais c'est vrai que si on ne montre pas le chemin, tout le monde va se dire « bah c'est bon, la danse va toujours être un plan B, mais jamais vraiment un centre d'intérêt principal où on peut vraiment consacrer toute son énergie. »
Alors justement, quand vous dites il faut avoir quelque chose à côté, c'est-à-dire vous avez un autre métier, on va dire, plus entre guillemets plus conventionnel?
Alors non, pas vraiment. Alors j'ai fait des études qui n'avaient rien à voir avec la danse. J'ai fait du commerce, j'ai un MBA. C'est vraiment.
Alors racontez-moi. Racontez-moi. Alors rewind. Racontez-moi.
Rewind.
Exactement. Okay. Racontez-moi. Alors, on y va. Étape par étape. Bac.
Étape par étape. Alors après le bac, je suis partie en France pour faire des études de commerce.
Ok.
Spécialisée dans le marché chinois. Ouais. Donc dès la première année, je faisais mes études en France et en Chine en même temps.
Ah, excellent.
Et à côté, je faisais un autre diplôme en relations internationales. Donc vraiment, les prétentions de, je sais pas, sauver le monde, être à l'ONU, être une femme engagée et tout. Et puis, de fil en aiguille, j'ai réalisé que ce qui m'attirait le plus dans ces études pointues, c'est vraiment l'aspect culturel de la Chine, de la culture asiatique en général. Donc vraiment, quand je vivais là-bas, je faisais mes études là-bas, j'étais la plus épanouie possible.
En Chine.
Et en Chine. Oui. Mais l'une des choses qui m'a le plus permis de me connecter aux gens, mais vraiment juste comme ça, c'est la danse. Sachant que je ne faisais pas de la danse petite. J'ai commencé la danse qu'après le bac.
Mais alors justement, cette petite étincelle artistique, elle n'était pas là, quand vous avez eu votre bac, quand vous êtes partie entamer vos études, et des études quand même très pointues dès le départ, c'est-à-dire, oui, je veux faire de la finance, connaître les marchés, enfin, faire étudier, mais vraiment étudier un marché chinois, enfin, c'est vraiment savoir, j'ai l'impression, quand vous racontez ça, vous saviez vraiment où vous alliez, vous mettiez les pieds.
Alors oui, dans le sens où personne n'a fait ses choix pour moi, c'était vraiment mes propres convictions et j'étais toute seule attirée par ça, mais au fond je ne voyais pas ce qui m'attendait.
Oui.
J'avais commencé la danse juste comme, comment on dit ça, une activité parascolaire où on était obligé de choisir une activité en plus, et puis parmi tous les choix j'étais un peu plus attirée par la danse qu'autre chose. Et de fil en aiguille, je le faisais comme un loisir. Je n'avais pas de prétention de me professionnaliser ou même de devenir prof un jour. Mais c'est ce qui m'a le plus permis de me connecter dans des cultures où au départ, tu ne parles pas forcément très bien la langue, où il y a certaines barrières, mais quand tu danses avec les gens, c'est un langage quand même. Donc quand tu apprends ce langage, tu peux partir n'importe où dans le monde et danser avec les gens et te connecter à des niveaux qui sont encore plus poussés que la langue qu'on parle peut nous permettre de faire.
Vous avez passé combien de temps en Chine, justement?
Alors, je partais tous les ans pendant plus ou moins un an, puis j'ai passé un an à Taïwan.
Ok. Alors, le MBA, donc vous êtes resté dans les études conventionnelles?
Je suis restée jusqu'à la fin, on va dire. Et c'est le déclic s'est passé à la toute fin de mes études, à mon retour en France, où je suis passée par une période de burn-out, grosse dépression, mais déni de dépression. Je ne réalisais pas vraiment ça. Mmh. Parce que je pense que le retour à la réalité de la vie, vraiment métro, boulot, dodo, et tu te dis, mais non, j'espère à plus que ça, c'est pas ça, c'est pas fait pour moi. Et au milieu de tout ça, la seule chose qui m'a vraiment permis de me sauver, c'était vraiment la danse. Donc, je ne le réalisais pas, je me cachais un petit peu dans la danse, mais ça m'a quand même sauvée. Donc, après, quand on consentit tout ça et qu'on réalise que ça, c'était quand même la chose la plus importante et que malgré toutes les études, c'est ce qui m'a apporté le plus de bien-être, bah, le souhait, c'était un petit peu de pouvoir transmettre ça aux gens, mais d'une façon plus thérapeutique que ce que j'ai reçu. Mmh. Donc vraiment d'utiliser la danse comme un canal qui va aider les gens à se connecter à eux-mêmes, à leur corps, à peut-être s'ils sont déprimés, qu'ils ne viennent pas juste inconsciemment à la danse, mais qu'ils sachent que c'est un moyen aussi pour vraiment libérer des choses.
Alors justement, again, rewind.
Okay.
Okay, ça va trop vite. Alors, on va reprendre petit à petit. Okay. Le MBA, c'était en Asie aussi?
Yes, je l'ai fait à Taïwan.
Ok. Ensuite, vous êtes rentrée en France. Vous n'êtes pas rentrée au Maroc, vous êtes rentrée en France. Vous êtes revenue en France.
Exactement.
C'est ça. Et vous avez dit, j'étais dans une forme de dépression, de burn-out, mais j'essayais de...
Mais dans le déni.
Dans le déni.
Je ne le réalisais pas, ouais.
Voilà.
Parce que je suis quelqu'un de très positif, donc non, jamais je vais être déprimée.
Mais c'était quoi les symptômes? C'était quoi les signaux, justement, pour les personnes qui nous écoutent maintenant, qui peuvent se dire, attention, c'est peut-être ce que je vis actuellement, c'est peut-être ça, et je ne le vois pas. C'était quoi?
Alors, j'étais à mon dernier semestre, et même si normalement je suis quelqu'un de... très actif, positif, je suis devenue un peu comme un légume. Mmh. J'avais plus envie de sortir, plus du tout sociable. Je ne faisais pas d'efforts pour parler aux gens. J'avais l'impression qu'ils n'allaient pas comprendre la vie que j'avais vécue à l'étranger, que du coup, là, j'étais très différente d'eux. Je commençais un petit peu le self-sabotage, donc j'allais même rater quelques cours, ne pas y aller, alors que moi, bonne élève, jamais je rate des cours de ma vie. Je n'appelais plus mes proches parce que j'allais pas bien et je ne savais pas cacher que j'allais pas bien. Donc, je préférais ne pas répondre au téléphone. Donc, voilà, c'est plein de petites choses comme ça, de fil en aiguille. Et donc, je préférais me connecter à des gens qui ne me connaissaient pas avant. Comme ça, ils ne faisaient pas la différence de « Ah, mais elle est différente ».
Alors,
donc, voilà.
Raoula,
oui.
Justement, cette prise de conscience que toute cette vie que vous aviez vécue jusque-là ne vous convenait pas, est-ce qu'elle ne vous convenait vraiment pas?
Je ne dirais pas qu'elle ne me convenait vraiment pas, mais je pense que je n'avais pas les outils pour notamment balancer dans certaines périodes comme ça et savoir comment faire des pauses quand il le faut. Quand j'y pense maintenant... malgré tout ce que j'ai fait, je prenais jamais vraiment de break pour célébrer les petits achievements ou pour me dire je voulais toujours courir derrière quelque chose de plus, comme si la montre elle me rattrapait. Donc je pense que c'est vraiment juste être plus conscient des pas qu'on fait et de valoriser chaque petit pas.
Donc tout ça vous l'avez mis de côté aujourd'hui, toute cette carrière marketing, finance, connaissance de l'Asie, tout ça, vous l'avez mis de côté?
Je dirais pas je l'ai mis de côté parce que je le réutilise différemment, je pense, de nos jours. Ça fait des mois que je suis maintenant, je pense que ça fait partie prenante de moi-même.
Oui.
Mais c'est vrai que je réutilise ça différemment. Je n'utilise pas mon diplôme pour être dans un corporate job, mais c'est vrai que les choses les plus enrichissantes que j'ai apprises sont les leçons de la vie, sont les rencontres avec les gens que j'ai pu faire. C'est vraiment plus ça que le diplôme en lui-même.
Est-ce qu'il y a quand même un regard réducteur de l'artiste, de la femme danseuse que vous êtes? Mais ensuite, quand on sait, quand on découvre la construction derrière, on se dit « Ah, quand même
!» Carrément, parce que je pense que dans la vie de tous les jours, je ne me présente pas aux gens comme ça.
Oui, oui.
Ce n'est pas ça le but. Après, je pense que quand on apprend à me connaître ou qu'on vient à mes cours régulièrement, c'est vrai qu'on le découvre. Mais le but, ce n'est pas de dire « Ah, voilà, oui. J'ai vécu tout ça et tout. » Je pense que ma danse parle de moi-même, ma façon de m'exprimer en cours, ou même les enseignements que je danse montrent pas mal de choses. Après, aux gens de savoir est-ce que ça leur correspond, est-ce que ça les appelle. Peut-être que c'est too much pour certaines personnes, parce que comme toute discipline, on peut l'enseigner à différents niveaux. On peut rester que sur l'aspect corporel et faire la chorégraphie et basta, au revoir, et pas de, vraiment de relation sociale avec les gens. Et puis, on peut pousser un peu plus. Donc, ça dépend vraiment des gens.
Mais justement, lorsque les gens comprennent un peu plus votre background, mm-hmm. est-ce que ça donne... Est-ce que vous ne trouvez pas que parfois, justement, malheureusement, c'est ça qui va donner encore plus de crédibilité à ce que vous faites?
Bonne question. Après, moi, j'estime que j'aimerais bien que les gens s'intéressent par eux-mêmes. Je n'essaie pas de crédibiliser mon cheminement. Je ne sais pas, je n'ai jamais pensé comme ça.
Mais le fait, justement, qu'il y ait tout ce cheminement académique, est-ce que, justement, est-ce que les gens, à ce moment-là, perçoivent plus l'aspect cérébral de votre danse que l'aspect corporel uniquement? Physique uniquement.
Je pense que oui. Je pense que mon cheminement me permet d'avoir une approche qui parle à certaines personnes qui sont du coup qui viennent des corporate jobs. Parce que moi, généralement, à 19h, quand les gens sortent de leur boulot, ils viennent à mon cours et ils viennent avec être dans la performance, mentaliser la chose et tout. Et je leur dis, je comprends parce que je viens de ça aussi. Mm. On n'est pas là pour rester dans le même cadre. On est là pour lâcher prise et donc aller plus écouter son corps et tout. Donc, je pense que vu que j'ai ces termes-là et que je comprends d'où ils viennent, on va plus se comprendre que quelqu'un d'autre qui a peut-être pas besoin de mon accroche à moi. Donc, c'est vrai que les gens que j'attire de plus en plus me ressemblent.
Vous devenez leur thérapeute en quelque sorte.
ma danse est un petit peu thérapeutique. Mon approche, en tout cas, elle est.
Alors, après l'Asie, vous êtes arrivée en France. À quel moment vous êtes dit, je rentre au Maroc et je me lance?
Du coup, je suis arrivée un an avant le Covid. Donc, okay. Après, vu que j'ai dû vivre le Covid avec la dépression, tout ce qui va avec, et je pense que beaucoup de personnes l'ont vécu de la sorte, je me suis posé plein de questions. Et je savais qu'au fond de moi, je voulais retourner vivre en Asie. Mais vu qu'il y a eu le Covid et qu'il y a eu plein de choses qui se sont passées en même temps, je pense que c'est des années aussi que je n'avais pas pris le temps de revenir au Maroc. J'étais un peu une aventurière et je restais très longtemps à l'étranger. Du coup, j'avais ressenti cet appel de revenir me reconnecter à mes origines, à ma famille, leur montrer aussi un petit peu comment j'ai changé depuis ces quelques années à l'étranger. Et dans le cheminement, où moi je pensais que c'était que quelques mois de vacances, j'ai réalisé qu'il y avait tellement de choses à faire là et que ça avait beaucoup plus de sens pour moi de partager le peu de mon expérience ici que n'importe où ailleurs. Que si j'arrivais vraiment à dépasser tous les blocages ici ou le fait que la danse, être danseuse à 100% soit un peu tabou dans notre société, j'aurais pu aller n'importe où dans le monde. Ça ne va pas être la même chose. Mais si j'avais réussi à 100% à le faire ici, là, c'est bon.
Ça donne une forme de liberté de le faire ailleurs.
Bien sûr. Parce que c'était très facile pour moi de le faire en France ou en Chine. Mais le faire ici, j'avais l'impression de reprendre à zéro, que je n'avais pas du tout.
C'est ça.
C'est le travail sur moi et tout. Donc, ouais.
Alors, les parents dans tout ça, parce que pour toutes ces études, arriver jusqu'à un MBA en Asie, ça, c'est des frais. C'est un investissement. Mm-hmm. Et quand leur fille arrive et leur dit, finalement, vous savez, c'est pas ce que je veux faire. Je pose tout de côté et puis je me lance dans autre chose. Ça a été vécu comment?
Déjà, je pense qu'ils ont toujours, j'ai toujours été essayé d'être la petits modèles. Genre, j'avais même réussi à avoir des bourses pour pouvoir tout faire indépendamment. Je viens pas d'un milieu social qui soit très aisé. Et donc, je savais qu'un petit peu, il y avait inconsciemment des petites attentes parce que j'étais la seule de la famille qui avait vraiment réussi à faire de grands pas. Mais le déclic, je n'avais pas réalisé que c'était quelque chose de positif. C'est vraiment ma dépression parce qu'elle était vraiment très forte. J'avais fini à l'hôpital, ce n'était pas petit. Donc, je pense que quand ils ont conscientisé pour la première fois qu'en fait, je ressens de la pression, que je peux ne pas aller bien, que je ne suis pas toujours positif, qu'il y a des choses que je dois régler. Le plus important pour eux, c'était on s'en fout. Tant que tu vas bien mentalement,
c'était important.
C'est ce que tu veux. Voilà.
Ouais,
donc, je pense que moi, j'essayais de cacher que j'allais pas bien et tout. Je pensais que c'était un malheur qu'ils sachent que j'allais pas bien, mais qu'au fond, en fait, c'était une bénédiction parce que c'est ce qui leur a permis de faire une pause, de se poser des questions et de m'autoriser de prendre le chemin que je prends aujourd'hui.
Alors, justement, Raoula, cette dépression, c'est ce premier mal-être après le retour d'Asie qui a duré dans le temps jusqu'à votre retour au Maroc, c'est ça ?
Qui a duré dans le temps... Oui, je pourrais dire que le Maroc fait vraiment partie prenante dans ma guérison et qui... Je ne dirais pas que je suis complètement guérie, mais là, je suis un peu plus consciente de ce que je devrais faire, de ne pas faire. Et puis, j'ai d'autres outils en main qui me permettent d'aller mieux. Mais je pense que c'est une partie importante de ma guérison. Ouais.
Et cette pression de vouloir toujours être la fille parfaite, justement, les jeunes femmes qui nous écoutent, qui ont été dans la même situation, qui ont ressenti ça consciemment, inconsciemment, qui ont reçu ça de la part de l'environnement, encore une fois, consciemment ou inconsciemment de la part de cet environnement, vous leur dites quoi aujourd'hui, Raoula?
Parce que, dans mon cas, c'est inconsciemment.
Bien
On
sûr.
M'a jamais dit. c'est une pression que je me suis mise toute seule. À toujours vouloir être la petite fille modèle. Je leur dis qu'elles peuvent s'autoriser d'être elles-mêmes, que le plus important c'est juste d'être, au-delà de faire de tous les achievements qu'elles peuvent faire, qu'on a beau courir après beaucoup de diplômes ou peu importe ce qu'on recherche, au fond, si on n'est pas heureux à un moment, ça va nous suivre. Donc, peu importe combien de temps on essaie de se voiler la face, ça va nous tomber dessus. Donc, si de nos jours, on peut le faire d'une façon plus consciente et prendre des petits pas qui nous correspondent un petit peu mieux, qui viennent un peu plus de ce qu'on veut profondément plutôt que de ce que la société ou la famille veut, je pense que ça éviterait des gros burn-out, des grosses dépressions. On pourrait éviter. Dans mon cas, je me dis j'ai eu de la chance parce que ça aurait pu être plus violent que ça, mais j'espère qu'on puisse éviter ça et qu'on puisse aussi avoir des plateformes comme la tienne pour pouvoir en parler, sensibiliser les gens, pour pouvoir éviter un maximum, même si c'est une partie prenante des expériences qu'il faut avoir pour vraiment avoir ces révélations et faire les pas qu'il faut. Mais si on peut le faire d'une manière plus douce, je pense que c'est mieux.
Ouais. Mais vous pensez que vous auriez pu faire les choses différemment?
Oui et non. Dans le sens où une grosse situation comme ça peut être un boost énorme. C'est vraiment, tu te réveilles un jour et tu as envie de changer tout 360. Et tu le fais. Mais c'est parce que vraiment tu as touché le fond. Et je pense que on peut monter plus haut que par rapport à la profondeur qu'on a touchée. C'est ça,
absolument, absolument. Non, je comprends parfaitement. Mais en même temps, parfois, on a peur de s'écouter.
Ouais. Mais c'est pour ça que je pense qu'il y a plein d'outils. Chacun ses outils. Je pense que chacun va être appelé dans son parcours à aller vers des disciplines ou même des thérapies différentes. Mais chacun ses outils, chacun à son moment, il va réussir à trouver. Moi, c'était la danse parce que quand même, être dans le corps te permet d'aller plus ressentir, sentir tes sensations, Et si tout d'un coup tu lâches, plus tu es dans le mouvement, plus tu es moins dans le mental, et donc tu vas juste te connecter à tes émotions et te poser avec.
Khaoula Aboul Hassan, merci beaucoup d'avoir été ma femme d'aujourd'hui.
Merci à toi.
Merci d'avoir contribué à notre communauté féminine.
Je t'en prie, merci à toi.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, surtout de retrouver mes femmes marocaines battantes, extraordinaires, du lundi au vendredi. Et bien sûr, chaque épisode est toujours en avant-première, à la demande, à n'importe quel moment, sur Média Podcast. Très très bonne suite des programmes à toutes et à tous.